Shalom tout le monde, on m'a demandé de vous entretenir aujourd'hui d'un thème épineux, la Shoah. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le 10 Tevet a été institué par le grand rabbinat d'Israël comme ce qu'on appelle le jour du Kaddish général, Kaddish Aklali. C'est quoi le Kaddish Aklali? Il y a eu beaucoup de victimes de la Shoah dont on ne connaît pas la date de leur disparition. Et donc, pour qu'on puisse dire un Kaddish, qui est un Yortzeit, un jour de commémoration, alors le grand rabbinat d'Israël a institué le jeûne du 10 Tevet comme correspondant à ça.
Avant, il n'y avait pas?
Avant la Shoah, il n'y avait pas de jour pour la Shoah.
Il n'y avait pas de jeûne du 10 Tevet?
Bien sûr qu'il y avait le jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet était mentionné dans les prophètes déjà, dans le prophète Zecharia. Mais il n'y avait pas le Kaddish collectif. Et donc ce qu'a fait la Rabbanout, ils ont mis ensemble le Kaddish et le jour du 10 Tevet, qui de toute manière est un jour de jeûne. Voilà, c'est tout. Le 10 Tevet, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est toute une histoire. Le Yom HaShoah. Le Yom HaShoah, ça a été en fait un tour de force entre le gouvernement israélien et le grand rabbinat d'Israël. Le grand rabbinat d'Israël ne voulait pas du Yom HaShoah. Il ne voulait pas du Yom HaShoah parce que, entre autres, c'est en Nissan, et qu'en Nissan, on ne fait pas de commémoration. Et il y avait encore d'autres raisons, probablement, des raisons, disons, psychologiques. Et d'un autre côté, Ben Gurion et tous ses copains, ils ont dit, non, pas du tout, au contraire, il faut mettre Yom HaShoah une semaine après Pessah et une semaine avant Yom HaAtzmaout, pour bien montrer que c'est un peuple qui se relève de ses cendres. À part ça, on a prétendu que c'était le jour de la chute du ghetto de Varsovie, qui était associé à une révolte. Or, pour les sionistes de l'époque, il est très important de démontrer qu'il y avait eu une révolte armée des Juifs contre la Shoah. Et donc, tout ça, ça fait du balagan. Finalement, le grand rabbinat a cédé, et donc le Yom HaShoah existe. Mais d'un autre côté, pour faire plaisir à ceux qui n'étaient pas d'accord, alors on a mis le 10 Tevet comme jour du Kaddish Aklali. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas loin du jour de ce qu'on appelle le Yom HaShoah mondial. Vous savez que depuis quelques années, à l'ONU, on a institué un jour de la Shoah, un jour de commémoration de la Shoah, en janvier. Donc c'est pas loin en général du 10 Tevet. Bon. Le thème de la Shoah est un thème qu'on ne peut pas esquiver. On peut évidemment dire que ça n'a aucune importance du point de vue juif. Par exemple, c'était la thèse du professeur Yeshayahu Leibovitch. Yeshayahu Leibovitch affirmait que la Shoah n'a aucune signification d'un point de vue juif. C'est simplement des méchants qui ont appliqué leur méchanceté. Parce que le monde est aux mains des méchants, et donc parfois ils sont forts, parfois ils sont faibles. Quand ils sont forts, ils font des méchancetés. Voilà, c'est à peu près ça qu'il a voulu dire. Donc, de son point de vue, la Shoah ne signifie rien. Bon, c'est pas très nouveau, parce que dans le système de pensée de Yeshayahu Leibovitch, rien ne signifie rien. Mais, si ce n'est l'accomplissement des mitzvot. C'est la seule chose qui est importante, c'est d'accomplir les mitzvot, tout le reste, c'est zéro. Mais, pourquoi je vous parle d'un personnage aussi bizarre? C'est parce que son mode de pensée a une certaine influence en Israël, et donc il est bon d'être au courant de l'existence de cette pensée. Mais disons que y a, pour une conscience juive, la Shoah, indépendamment de son horreur, implique des questions d'ordre métaphysique. Tout d'abord, est-ce que la tradition avait envisagé, en tout cas comme éventualité, la Shoah? Est-ce que chez les prophètes, est-ce que chez les Chachamim, de la Mishnah, de la Gemara, est-ce qu'il était question de la Shoah comme éventualité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'il y aurait une explication métaphysique de la Shoah. À la limite, presque une justification. Troisième question, très grave aussi, c'est ce qu'on appelle la responsabilité de la Shoah. Qui est responsable? Oui, alors vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Donc ça, c'est une tentative de réponse intéressante, mais disons que nous étions au stade de l'étude de la question. À part ça, le fait que le Rav Kook ait dit quelque chose de ce genre, un an après la montée d'Hitler au pouvoir, c'est peut-être pas très étonnant. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que la tradition, tout au long de l'histoire, en a parlé ou pas? Oui, tu veux dire quelque chose?
Non, pas pareil.
Quoi, tu as l'histoire de. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Dans la Torah, on pouvait lire qu'il y avait la Shoah et Hitler par rapport à au
Quoi?
sein de l'Égypte, tout au début.
Comment ça?
En fait, il y a un raf qui m'a montré que
Les lettres,
si on
quoi.
lisait en diagonale des lettres, et il me l'a montré.
Ah oui, il y a plein de machins comme ça. Bon, je veux
Ouais,
bien.
sinon
Bon.
dans la Gemara Megillah aussi, au Daf, quand ils montrent la
Oui, on
Shoah.
parle de l'Allemagne, effectivement. Bon, il y a des allusions. Mais enfin, disons de manière générale, il faut comprendre ce que ça peut vouloir dire. Une situation historique dans laquelle il y a une menace d'anéantissement total du peuple juif. Hein? Le Dix-Tevet? Le Dix-Tevet, c'était pas un anéantissement, c'était le siège de Jérusalem. Oui, d'accord, on peut toujours que tout lier à tout. En fait, donc, le problème est de savoir comment est-ce qu'il y a pu. Cette idée qu'il y ait une éventualité de tentative de destruction totale du peuple juif, c'est pas quelque chose d'indifférent. Ça ne peut pas être quelque chose qui, simplement par une allusion, ou bien des lettres en diagonale, ou un truc de ce genre. Il y a, remarquons tout de suite, un livre entier dans le Tanakh qui parle du problème de la Shoah. Vous le connaissez, c'est le rouleau d'Esther. Megillat Esther, il est question là-bas d'une tentative d'extermination totale du peuple juif. Donc la Shoah est mentionnée dans le Tanakh. Ce qui est intéressant de voir là-bas aussi, c'est que elle a été évitée. C'est-à-dire, c'est le récit d'une Shoah qui a été évitée. Mais la Shoah existe. Et il est effectivement en question dans plusieurs endroits dans le Tanakh de ce genre d'éventualité. Par exemple, dans le livre de Devarim, au chapitre 32, quand il est dit Amarti af ehem ashbi itam enosh zichram. J'ai dit que je les réduirai à un coin. J'arrêterai, je ferai cesser leur souvenir du sein des hommes. Il est également question, et là-bas c'est très grave parce que on dit Michoutz teshakel cherev, à l'extérieur l'épée désenfante, ou Mehadarim eima, et dans les chambres c'est la terreur. Gam Bahour, Gam Betula, Yonek Imishseva, aussi bien les jeunes gens que les jeunes filles, les nourrissons et les vieillards. Donc on voit que la Torah a parlé de ce genre d'éventualité. Il y a un Midrash également que vous connaissez, qui dit que au début de l'histoire des Hébreux, il y a eu, on dit qu'Abraham, l'ancêtre des Hébreux, a été précipité dans la fournaise. S'il y était resté, on ne serait pas là pour en parler. D'accord? Donc cette idée de brûler les Hébreux, elle est très ancienne, elle se trouve à l'origine de l'histoire du peuple juif. Il y a également un texte très intéressant dans le livre de Daniel, au chapitre 12, au verset 1. Vous vous rappelez, non? Le chapitre 12. Hein? À peu près. Toi, tu connais plutôt le verset 2, c'est ça?
Entre le 2 et le 6.
Entre le 2 et le 6, oui. Mais dans le verset numéro 1, chapitre 12, verset 1. Non, il y a eu, il y a une différence entre la Shoah et les autres événements. Il y a eu des événements dramatiques, il y a eu des tueries en quantité effroyable, mais la Shoah, c'est quelque chose de totalement différent du fait que c'est l'extermination systématique et organisée comme étant le projet d'une grande puissance et de manière, planifiée. Quand il y a eu des pogroms, ou bien quand il y a eu les croisades, eh bien c'était des tueries, mais c'était pas, ça faisait pas partie du projet. C'était si tu veux, un élan de barbarie qui était la, sur la musique. Oui, bon, il y avait, on peut dire qu'il y avait aussi une idée théologique que les Juifs sont des salauds, ils ont tué notre Seigneur, tous ces machins-là, donc il faut les zigouiller. Mais ça faisait pas partie, par exemple, de la théologie dominante. Les papes se sont toujours opposés aux pogroms et aux accusations de meurtre rituel, tous ces machins-là. D'accord? Mais tandis que dans la Shoah, c'est quelque chose de sciemment décidé. Il y a une conférence, la conférence de Wannsee, à laquelle ça a été décidé. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On voit chez Haman qui a cette idée-là. Haman y a pensé. Et puis, et Lavan aussi. Lavan aussi, il a voulu détruire toute la famille de Yaakov, donc tout le peuple d'Israël de l'époque, et même le pharaon n'a pas été jusque-là, puisqu'il ne voulait tuer que les garçons et pas les filles. Et tandis que... Oui ? Il voulait s'accaparer les filles d'Israël, c'est-à-dire que l'Égypte serait devenue le peuple élu, puisqu'il se serait approprié la force reproductrice du peuple juif. Mais attendez, je cherche ici désespérément le livre de Daniel. Ah voilà, je l'ai trouvé. Il y a toujours des espoirs, il y a toujours espoir. Donc chapitre Yudbet, verset Aleph. Uva'et ahi, en ce temps-là, Ya'amod Michael Asar Agadol, se lèvera Michael, le grand prince, Ha'omed al-Bene Amecha, qui se tient, enfin, qui est chargé de s'occuper des fils de ton peuple. Ve'haïta et tsara. Il y aura un moment de détresse, un temps de détresse. Asher loni hieta miyot goya daetai. Comme il n'y en a pas eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce moment-là. Uva'etai, et à cette époque-là, yimalet amecha. Ton peuple sera rescapé. Kol animtsa katuv basefer, tous ceux qui seront inscrits dans le livre. Donc, ce que nous dit ici le prophète, c'est que à la fin du temps de l'exil, il y aura un moment terrible, le pire de notre histoire, et que après ça, eh bien, le peuple sera sauvé, mais pas tout le monde. Seulement ceux qui sont inscrits dans le livre. C'est quoi être inscrit dans le livre? Ben, vous avez un verset dans le livre de Zecharia qui dit Vaya nishar betzion vanotar birushalayim, ceux qui resteront à Tzion et qui seront restés à Jérusalem, kadosh yamerlo, seront déclarés saints. Kol akatuv lechayim birushalayim. Tous ceux qui sont inscrits pour la vie seront à Jérusalem.
Il y en a ceux qui ont été aux États-Unis et qui ont survécu.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pas forcément être à Jérusalem, ceux qui étaient à Jérusalem qui ont été.
Nahon.
C'est contre ce que vous avez dit ?
Non. Il y a écrit que ceux qui seront à Jérusalem ne seront pas atteints. Est-ce que ça veut dire que dans tout le monde entier, tout le monde y passera ? Non. D'accord ? Donc ça ne contredit pas. J'amène ce texte pour vous montrer qu'il y a quelque part en filigrane cette idée que c'est possible. Simplement, est-ce que c'est possible à tout moment? La Torah nous dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir de quelque chose? Alors, est-ce que j'ai besoin de me souvenir que le soleil se lève? Non. Pourquoi j'ai pas besoin de me souvenir? Parce que ça se passe tous les jours. C'est-à-dire quelque chose qui est fréquent ou quelque chose qui est permanent, on n'a pas besoin du souvenir pour ça. Donc si la Torah dit qu'il faut se souvenir d'Amalek, ça veut dire que le phénomène Amalek est un phénomène qui n'est pas permanent. Il y a des moments de l'histoire où ça peut se passer, et il est important de le savoir, parce que quand ça arrive, il faut être préparé. D'accord? Et le problème, c'est de savoir quand est-ce que Amalek surgit. Quand est-ce qu'il intervient? D'accord? Il y a probablement une règle historique à cela. La règle historique, c'est que ça peut se passer baderer, quand tu es en chemin. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek quand tu étais en chemin. Donc il y a ici déjà une première clé. Ça peut se passer quand on est en chemin. Tant qu'on est en Égypte, Amalek ne peut rien faire contre nous. Parce que quand on est en Égypte, on est sous la protection du pharaon. Le pharaon ne va quand même pas laisser Amalek s'attaquer à ses esclaves. Les esclaves, ça fait partie du système économique de l'Égypte. Donc, les Juifs en Égypte sont protégés par le pharaon. Quand Israël est sur sa terre et qu'il a son roi, son temple, son royaume et tout le bazar, Amalek ne peut rien faire non plus. Alors quand est-ce qu'il peut s'attaquer? Il peut s'attaquer en route. Quand nous ne sommes plus sous la domination de l'Égypte, mais nous ne sommes pas encore pleinement dans notre force. Alors au milieu, Amalek peut intervenir. Ça c'est le premier point qui nous est donné par la Torah. Le problème est de savoir, est-ce que l'on peut, et là c'est la deuxième question, est-ce que l'on peut réduire la Shoah, ou l'intervention d'Amalek, à l'équation habituelle de ce qu'on appelle Sachar va'onesh, la récompense et la punition, c'est-à-dire la rétribution. La Torah dit dans plusieurs endroits, si tu fais le bien, eh bien Dieu te bénira. Et si tu fais le mal, Dieu te fera des misères. Alors, est-ce qu'on peut réduire la Shoah à ce schéma-là? Il y a eu une fois un rabbin en Israël, il y a quelque chose comme 30 ans, qui a fait beaucoup de grabuge, parce qu'il a affirmé publiquement que la Shoah était la punition des péchés des enfants d'Israël, et qu'il y a une accumulation qui fait qu'à un moment... Eh bien, le bon Dieu, il en a marre. Et alors, il se fait payer. Et il dit, et le rabbin en question a dit publiquement que, étant donné qu'il y avait une accumulation très grave de transgressions du Shabbat et du jour de Kippour, et qu'on ne mange pas cachère et tout ça, sait-on jamais, il peut en avoir encore une autre. Et tout ça a été prouvé par A plus B. Étant donné que Dieu a dit que quand nous faisons le mal, il y a une punition. Et comme il y a eu la Shoah, que c'était un malheur, c'était donc une punition, donc nous avons fait des péchés et c'était bien fait pour nous. Oui ?
Et pourtant, par contre, quand on voit Amalek attaquer, c'est pas par punition. Par la première,
Évidemment, c'est n'importe quoi ce qu'il a dit, ce Rav. Je ne faisais qu'amener sa thèse, parce que je suis très objectif et j'amène même les thèses, même les plus farfelues. Oui ?
Les attaques d'Amalek, c'est indépendant de tout ça.
Ben, c'est ce que j'essaye d'étudier là dans ce cours. C'est ce que j'essaye d'étudier. En tout cas, j'amène toutes les thèses, y compris les plus farfelues. Oui.
Il a quand même dit que lorsque vous ferez du mal, je vous punirai.
Oui, mais alors est-ce qu'il y a que ça? C'est ça le problème. Est-ce que tout ce qui nous arrive rentre dans ce cadre-là? La réponse est que non. Il y a pour cela un livre entier dans la Bible qui explique que les malheurs ne sont pas forcément liés au péché. Il y a le cas d'un homme juste, limpidement juste, et qui a tous les malheurs du monde. Il s'appelle comment ?
Iov.
D'accord ? C'est d'expliquer ce boulot, cette idée-là, c'est ça son job, d'où son nom. D'accord ?
C'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi ça.
Ça peut être aussi ça, mais le problème, est-ce que c'est proportionnel? Par exemple, la Guémara dit, si quelqu'un a des souffrances, il doit faire trois choses. Premièrement, vérifier ses actions. Yefashfesh le Maasaf. Peut-être que ça lui arrive à cause du mal qu'il a fait. Et après, la Guémara rajoute, l'omatsa yitle bebitul Torah. S'il n'a pas trouvé, alors qu'il pense que ça vient du fait qu'il a délaissé la Torah. Et après, la Guémara rajoute, l'omatsa, s'il n'a pas trouvé, yitle beyisurin shel ahava. Il doit faire dépendre ça des souffrances d'amour. Question du Rav Kook. Comment se fait-il qu'il n'a pas trouvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé un péché au moins qu'il a fait? Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé de péché qui est en rapport avec la souffrance. D'accord? C'est pas proportionnel. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui a écrit que la Shoah, c'est parce que on parlait pendant la Hazara de la Hamida. D'accord? Les gens parlent pendant la Hazara, et donc il y a eu la Shoah. Alors évidemment, je ne néglige pas la gravité de parler pendant la Hazara. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas bien de parler pendant la Hazara. Mais il y a quand même une proportion. D'accord?
Le Shabbat, c'est vrai, Bouddha.
Et alors?
Donc apparemment, nous, en tant qu'humains, je vois Shabbat, je me dis que c'est pas proportionnel, mais en fait, c'est une proportion divine.
Ah bon, pourquoi?
Shabbat, je peux me dire que c'est pas proportionnel, mais...
Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis là. Vraiment n'importe quoi. Oui, mais bien sûr. Quand quelqu'un transgresse le Shabbat et qu'il est Chayav Mita, qui c'est qui le met à mort?
Avant le Bedin.
C'est le tribunal. C'est le Beddin qui le met à mort. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le Kadosh Baruch Hu. Non, pas du tout. Qui t'a dit qu'il y a Mita Bide Shamaim? C'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est individuel. À part ça, je crois quand même qu'il y a un principe. C'est que notre génération, la génération des, ce qu'on appelle le public Riloni, ça n'a rien à voir avec l'équation habituelle de Sachar Vaonesh, étant donné que les poskim ont déjà déclaré que la génération actuelle des chilonim, elle avait le statut du bébé captif. Tinok shenishba. Donc, on ne peut pas les juger pour la transgression de la Torah. Il faut être conséquent avec la halakha quand même. Oui.
Juste la troisième explication, c'est quoi le plus délivrant de l'amour?
Oui, souffrance d'amour. Oui. Mais en tout cas, il est... disons, non seulement révoltant, mais en fait, il est tout à fait illogique de réduire la Shoah à un problème de péché, étant donné que nous étions le peuple le plus juste du monde. Je tiens à rappeler qu'il y avait un peuple bien pire que nous à l'époque, ça s'appelait les Allemands.
Ah, c'est pas le peuple de Géchem.
Et alors? Et ils ne sont pas responsables? Non, c'était des salauds, tandis que nous, on était vraiment des tzadikim.
Mais sinon, on est punis, c'est par rapport au loi de la Torah.
Non, il y a tout d'abord, il y a des choses beaucoup plus fondamentales. Le Derech Eretz, le meurtre, la débauche, l'idolâtrie, ça engage tout le monde, ça.
On n'a pas la même responsabilité.
On n'a pas la même... c'est vrai qu'on n'a pas la même responsabilité. Mais il faut comprendre que si on parle au niveau de la culpabilité, eh bien les Allemands sont beaucoup plus coupables. Oui.
Et
alors? Et alors? Mais alors? Ça veut d'ailleurs, je dis en passant... je crois que la majorité de ceux qui ont été emportés dans la Shoah étaient des juifs très religieux, dont d'ailleurs 2 millions d'enfants, qui, on peut dire difficilement qu'ils étaient responsables de quelque chose. Donc, une capara. Ça voudrait donc dire que le bon Dieu, il veut se venger, c'est-à-dire il est assoiffé de sang, et quand on a transgressé sa volonté, ça l'énerve tellement qu'il demande du sang. Et qu'il demande donc des millions d'enfants pour se calmer, parce que sinon il va vraiment se mettre en colère. Oui.
Au début de l'année, vous avez dit qu'il y avait la tchouba et la capara. La capara, c'est-à-dire que si quelqu'un meurt, il faut que quelqu'un meure.
Quoi?
Pour rétablir la tchouba.
Et alors?
Donc c'est le même principe en fait.
Non, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, donc, il faut essayer de comprendre de manière plus intelligente de quoi il s'agit. Maintenant, tout d'abord, au niveau de la responsabilité, avant d'essayer de trouver, disons, un début d'intelligence de la chose, il faut d'abord au niveau de la responsabilité. C'est très intéressant, il y en a qui disent que c'est les Juifs qui sont coupables de la Shoah. Certains disent c'est Dieu qui est responsable de la Shoah. Mais on oublie un point fondamental. Ce sont les Allemands qui l'ont fait. Donc ce sont eux qui sont responsables. Hein? C'est un peu énorme, mais c'est vrai. C'est eux qui sont responsables, c'est eux qui l'ont fait. Alors l'homme a un libre arbitre, ils auraient pu ne pas le faire. Non. Bien sûr, ça peut être la volonté, ça peut très bien ne pas être la volonté de Dieu. Parce que si tout ce que je fais c'est la volonté de Dieu, alors je peux faire tout le mal du monde et je dirais c'est la volonté de Dieu.
Alors si c'était pas la volonté de Dieu, comment Dieu ne nous a pas défendus?
Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi il ne nous a pas défendus? Mais il faut d'abord savoir que ce n'était pas sa volonté. C'est-à-dire que, alors que l'État d'Israël est une promesse et que le bon Dieu il l'a promis, donc il doit l'accomplir, la Shoah n'a jamais été promise. Elle a toujours été présentée comme une éventualité, mais pas comme une fatalité. Oui? Bah alors ça veut dire que ça voudrait donc dire que le bon Dieu, il est terrible. Il n'est pas tellement bon. Bah oui, mais j'aimerais comprendre. Je trouve pas ça tout à fait. Je crois pas que ce soit logique. Tu vois?
Non, j'ai aussi des souffrances terribles.
Quoi? Oui, d'accord, c'est le même problème. C'est le même problème. Vous ne faisez que reposer la
Parce
question.
qu'on a fauté, on a eu ces.
Alors on a fauté, oui, mais comme on n'avait pas fauté, et qu'il y avait des peuples beaucoup plus fauteurs que nous, ça tient pas la route.
Mais justement, c'est pour ça qu'à partir du moment où il y a une notion de capara, alors c'est incompréhensible.
J'ai pas dit. C'est toi qui as introduit la notion de capara. Il y a effectivement, chez certains chrétiens, il y a une analyse de la Shoah qui va dans ce sens.
Non, pas la Shoah, mais de manière générale.
Quoi? L'accaparat, c'est tout à fait logique. Il y a une logique de l'accaparat.
Et s'il faut qu'il y ait une personne qui meure?
Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il y ait une personne qui meure. Ça, c'est l'idée païenne de l'accaparat. C'est-à-dire, dans l'idée païenne de l'accaparat, alors les dieux sont énervés, donc ils ont besoin que quelqu'un soit sacrifié. D'accord? Ça, c'est l'idée païenne. L'idée de l'accaparat, chez nous, c'est tout à fait autre chose. C'est le rétablissement d'un équilibre en fonction de critères de moralité. Donc, il faut voir ce qu'il y a de moral dans l'accaparat. Oui?
Dire que Dieu n'a pas été présent pendant la Shoah, c'est lui dire, parce qu'à côté de ça, il y a quand même plusieurs miracles
J'ai pas dit qu'il n'a pas été
pendant la
présent.
Shoah.
Pour l'instant, j'en suis à la question. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait posé trois problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que ça a été prévu? Comment c'est explicable? Qui est responsable? Alors, pour la première question, nous avons répondu, c'était prévu. Comme éventualité, mais ça peut être également empêché. C'est ce que nous apprend la Megillat Esther. Pour ce qui est de l'interprétation, de la compréhension de la Shoah, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à une conclusion et vous essayez n'importe quoi. Et à propos de la responsabilité, j'ai commencé à donner une réponse. Ce sont les Allemands qui sont responsables. Mais là, je voudrais approfondir quelque chose. Vous savez que les Allemands sont des Européens. Et les Européens sont donc des Européens qui ont fait la Shoah. Or, c'est quoi l'Europe? L'Europe, or, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est une civilisation qui a deux origines, la Grèce et Israël. Comment? Rome étant une dérivée de la Grèce. C'est-à-dire la culture romaine, si dans la mesure où il y avait une culture, elle venait d'Athènes, elle venait de Grèce. Mais en tout cas, c'est ce mélange d'hellénisme et de Bible, ça s'appelle le christianisme. L'Europe, à son origine, est une entité chrétienne. Or, le christianisme s'est toujours opposé dans son principe à l'extermination des Juifs. Dans la théologie chrétienne, on a toujours affirmé que les Juifs devaient rester en vie dans l'humiliation, parce que leur humiliation sera la preuve de la véracité du christianisme. Donc il faut que les Juifs soient humiliés, et cette humiliation va servir de preuve à la véracité de l'enseignement de Jésus. Non, justement pas. C'est vrai qu'il y a eu un laisser-faire du Vatican, mais jamais le Vatican n'a pratiqué une politique pro-Shoah. C'est faux. Peut-être, mais ils n'ont jamais accepté. Non, ça individuellement, oui. Mais le problème, c'est que l'initiative n'est pas venue du Vatican non plus. Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment une Europe qui avait créé en permanence une théologie, qui a créé une théologie qui empêche la Shoah, cette même Europe a fait la Shoah. Elle n'était plus tellement chrétienne. Mais alors d'où venait cette haine des Juifs? En fait, elle venait du christianisme. Mais il faut comprendre une chose. Hein? Oui, non, mais je voudrais expliquer quelque chose à propos de ce qu'on appelle l'Europe laïque. C'est les fondateurs de l'Europe laïque qui ont donné une préfiguration de la Shoah. Le premier, hein, qui est le fondateur de l'Europe laïque? Vous avez une idée, vous? Non, bien avant. L'idée de l'Europe laïque. Hein? Voltaire, évidemment. François Darouet, du nom de Voltaire, a dit qu'il est très important d'abord de se libérer de l'emprise de l'Église, et il est important également de donner l'égalité des droits à tous les hommes. Mais rajoute-t-il, c'est fini là ce potin, oui, mais rajoute-t-il, à l'exception des Juifs. Parce que les Juifs y sont irréparables. Il y avait un goy allemand du nom de Johann Fichte. Fichte, qui était un philosophe allemand, qui a été le fondateur du nationalisme allemand à l'ère moderne. Il a dit que pour ce qui est des Juifs, il faudrait leur couper la tête à tous et la remplacer par une autre tête dans laquelle il ne resterait plus aucune idée juive, ou bien de les renvoyer dans le désert d'où ils sont venus. Ça veut dire, bon, alors si vous prenez les enseignements de Voltaire, les idées de Fichte, et puis vous mélangez ça avec un peu d'hégélianisme et de nietzschéanisme et autres ismes, ça vous donne très rapidement l'éventualité de la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, la Shoah, c'est l'Europe chrétienne devenue laïque qui a pu se permettre de faire la Shoah, parce que l'Europe a hérité de la haine des Juifs développée dans le christianisme, et cette haine n'avait plus son barrage théologique, puisqu'il n'y avait plus d'engagement par rapport à la théologie chrétienne. Si je fais un peu de psychanalyse, je dirais même plus que ça. Je dirais que l'Europe s'est faite laïque pour pouvoir faire la Shoah. Oui.
Pourquoi il y a une haine à la base?
Une rivalité entre Israël et Sav. Maintenant, il y a dans la Torah un verset absolument génial. Il y en a plein. Tous les versets de la Torah sont géniaux. Je vais vous donner un parmi tant d'autres. Vayomer Esav Belibo. Esav se dit en son cœur. Yikrevu Yeme Evel Avi. Les jours du deuil de mon père se rapprochent. Ve'aharga et Yaakov Achi. Et alors je tuerai Yaakov, mon frère. C'est intéressant ce verset. Parce que dans ce verset, il y a à la fois le projet de tuer Yaakov, il y a à la fois l'empêchement de le faire. C'est, il voudrait bien le tuer, mais papa est encore en vie, ça va lui faire de la peine. Et à part ça, c'est mon frère. C'est-à-dire, au moment où il veut tuer, il se rappelle deux raisons de ne pas le faire. Ben, on peut dire que c'est un peu comme le christianisme qui aimerait bien exterminer les juifs, mais il ne peut pas le faire parce que c'est notre frère. Oui.
Il n'y a pas un lien au fait que les chrétiens ils se considèrent comme juifs d'esprit et non les juifs.
Oui, bien sûr, il y a une rivalité. Ce n'est pas les juifs d'esprit, Israël de l'esprit. D'esprit. Et alors la Guémara nous raconte que lorsque Yaakov s'est enfui, Esav l'a envoyé son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. Esav ne veut pas le faire lui-même, mais il envoie Eliphaz. Eliphaz arrive auprès de Yaakov, mais, dit le Midrash, il avait étudié chez lui la Torah. Donc il ne pouvait pas le tuer, il lui a simplement enlevé ses biens. Parce qu'un pauvre est considéré comme mort. Ça veut dire à nouveau, vous avez ici une dette spirituelle de l'Europe par rapport au judaïsme, parce qu'on sait que les juifs ont enseigné la Torah aux nations, c'est ça qu'on appelle le christianisme, et donc on ne peut pas les tuer. On a une dette. Mais on peut leur prendre leur bien, c'est-à-dire l'humiliation. Et puis après, Eliphaz, c'est raconté dans la Torah, a un fils. Ce fils s'appelle Amalek. Et lui, Amalek, il hérite de la haine de Yaakov, de chez son grand-père Esav, mais il n'a plus les barrages sentimentaux ou théologiques, et donc lui peut envisager la Shoah. Donc on peut dire que ce n'est pas le christianisme qui a fait la Shoah, mais c'est le petit-fils du christianisme qui l'a fait. D'accord ? Donc à ce niveau-là, une responsabilité très grave du christianisme. Qui était la maman de Amalek ? Timna. Timna, si vous connaissez les Midrashim qui concernent Timna, était le fruit de la frustration de ne pas être Israël. Bon, ça c'est au niveau de la responsabilité. Maintenant, je voudrais rentrer dans la question la plus importante. Quand est-ce que ça peut se produire ? Il y a un texte dans la Torah, dans la paracha de Berukotai. Dans la paracha de Berukotai, c'est à la fin du livre de Vayikra, il y a un avertissement de tous les malheurs qui risquent de nous arriver si on ne fait pas la Torah et tout le bazar. Et puis, à la fin des malédictions, la Torah nous dit... Une petite seconde, j'y arrive. La brûle. Afani elech imam bekeri. Moi aussi j'irai envers eux avec dureté. Veveti otam beretz oyvehem. Je les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Oaz yikana levava me'arel. Peut-être qu'alors leur cœur incirconcis se soumettra. Veaz yirtsu et avonam. Et alors ils seront acquittés de leurs péchés. Vezacharti et beriti Yaakov. Et alors je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Veaf et beriti Yitzhak. Ainsi que de mon alliance avec Yitzhak. Veaf et beriti Avraham, ainsi que de mon alliance avec Avraham. Veaharetz eskor, et je me souviendrai de la terre. C'est quoi tout ça? Ben c'est le début du retour. Une fois que l'exil a fait son travail, le retour peut commencer. Et Dieu se souvient de l'alliance avec Yaakov, avec Yitzhak, avec Avraham, il se souvient de la terre. Ve'aretz te'azev me'em, et le pays sera abandonné par eux. Ve'tiretz et chaptotea, elle se reposera de ses années sabbatiques, etc. Et là, j'arrive au verset d'après. Ve'af gamzot, et de surcroît. Alors là, après que le texte a fini de nous raconter les malheurs de la galoute, et le début de la Géoula, brusquement, le texte dit, ah, il y a une petite note, j'ai oublié de dire quelque chose, il rajoute. Ve'af gamzot, et de surcroît, biotam beretz oyvehem, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, l'homme estime, je ne les méprise pas, veloge altim, je ne les rejette pas, les chalotam au point de les exterminer, les affaires biriti itam, parce que ce serait une transgression de mon alliance, qui ani Hashem Elohim, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'il y a une petite note qui est que la Shoah ne se produira pas pendant le temps de l'exil. C'est-à-dire que Dieu... Parce que l'exil, c'est un endroit absolument incroyable. Il n'y a aucune chance de tenir. Et pourtant, on a tenu. On a tenu, c'est parce qu'il y a une promesse. Dieu a dit, voilà, je vais faire une action particulière, de providence particulière, pour empêcher la Shoah pendant tout le temps de l'exil. C'est ce qu'il dit. Et puis après, il nous dit, mais c'est pendant tout le temps, biyotam beretzoivem, dans le temps où ils doivent être en exil. Mais il y a un temps où l'exil s'achève. Alors la Hashgacha quitte l'Europe. Elle revient en Eretz Israël. Pendant ce temps d'interruption de Hashgacha, tout est possible. Il y a à ce propos un enseignement du Ramchal. Je ne sais pas si on en a parlé sur les fenêtres. On en a parlé? Non. Il y a un texte du Ramchal. Le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en Italie, au 18e siècle. Oui, début du 18e siècle. Il a écrit beaucoup de livres, entre autres le Messilat Yesharim. Vous connaissez le Messilat Yesharim? Il a écrit une centaine de livres. 80 livres, pardon. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, l'essai sur la délivrance, dans lequel il parle de la Shoah, 200 ans avant que ça se passe. Bizarre quand même. Et il explique ça à nouveau comme étant, par des métaphores, la métaphore Windows. Windows, c'est-à-dire des fenêtres. Il explique à sa manière, c'est un langage kabbalistique. Il dit que pendant le temps où Israël était sur sa terre, il y avait un grand portail qui était ouvert. Et par ce portail passait la lumière. La lumière inondait le monde et amenait sa bénédiction à travers le peuple d'Israël sur sa terre. Mais quand nous sommes en galoute, le portail est fermé. Mais pour que le monde ne soit pas détruit, il y a des petites ouvertures, des fenêtres, dit-il, des fenêtres et des interstices, à travers lesquels la lumière est filtrée, elle est moins grande, mais elle passe quand même. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Shir HaShirim, Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Il observe depuis les fenêtres, il regarde par les fentes. C'est-à-dire pendant tout le temps de la galoute, ça ne va pas très bien, c'est pas folichon, mais il y a quand même de la lumière dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Le Ramchal rajoute qu'au moment de la Géoula, le portail doit s'ouvrir à nouveau. Mais pour qu'il puisse s'ouvrir, il faut en finir avec les fenêtres. Parce qu'il y a un principe qui est que deux rois ne règnent pas en même temps. Et donc il faut fermer les fenêtres pour ouvrir le portail. On ferme les fenêtres, ça va de plus en plus mal. Mais, dit le Ramchal, il y a un moment où la dernière fenêtre est fermée, mais tout de suite le portail s'ouvre. Parce que sinon le monde ne pourrait pas tenir. Mais il dit, attention, c'est immédiat dans le monde supérieur. Mais dans le monde inférieur, ça prend du temps. Et donc, dit le Ramchal, viendra un moment, il y aura un moment qui ne durera pas très longtemps, mais il dit que ce sera le pire des moments de notre histoire, parce que la dernière fenêtre sera fermée et qu'on ne sentira pas encore l'ouverture du portail. Et il dit, c'est à propos de ce temps-là que le roi David a dit, « Lama Hashem ta'amod mirachok, pourquoi, Éternel, te tiens-tu si loin ?» Donc ça veut dire que ça a été pensé, cette possibilité. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna a dit à ses élèves, c'était il y a 200 ans, qu'au moment où Israël commencera à revenir sur sa terre, il faudra transférer immédiatement, d'un seul coup, 600 000 juifs en Eretz Israël. Il a dit parce que sinon ça ira très mal, et disent les élèves du Gaon, les larmes lui coulaient des yeux quand il a dit cette chose-là. À la veille de la Shoah, il y avait en Eretz Israël 400 000 juifs. Lors de la fondation de l'État d'Israël, il y en avait 600 000. Le fait historique est là. On va en faire ce qu'on en veut, mais c'est comme ça. Maintenant, vous allez me dire, mais 600 000, quand la Torah parle de 600 000, c'est 600 000 hommes, adultes, pas femmes et enfants. C'est vrai. 600 000 hommes adultes de 20 ans et plus, il y en avait en Eretz Israël lors de la guerre des six jours. Vous voyez qu'il y a quand même une sorte de déterminisme historique qui fait qu'il faut faire attention, quand nous savons qu'une éventualité historique peut se produire, de l'empêcher. La Shoah aurait pu être empêchée, mais elle n'est pas le fruit d'une punition. Ça fait partie, si vous voulez, d'une sorte de dynamique historique dont il faut être au courant. Oui.
Alors, on ne peut pas dire que... On sait que la souffrance, souvent, ça répare les fautes qu'on a pu faire. Et
ça n'a rien à voir avec les fautes.
La Shoah, quelque part, elle a permis de dater la Géoula.
Non, absolument pas. Absolument pas. La Géoula avait commencé de toute manière. S'il n'y avait pas eu la Shoah, on aurait eu 6 millions de Juifs en plus en Eretz Israël.
Non, mais plus de temps.
Et alors ?
Justement, ça a été la Géoula, alors.
Je sais pas, peut-être que ça l'a rendu plus difficile. Oui ?
Il me semble qu'il y a un passage, je pense, à Agmara qui dit que quand on va arriver à la Géoula, on va perdre une partie du peuple.
Non.
La tierce du peuple,
non ?
Non.
Non. Top, c'est tout pour aujourd'hui. Oui.